13h, 14h, Génération.
C'est pour toi, frérot. Et c'est présenté par Max.
Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération, émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque pour l'une des premières fois de la saison, nous ne sommes pas en direct. Voilà, on a eu affaire à quelques problèmes logistiques et du coup nous ne sommes pas en direct. On aura beaucoup d'interviews, hein, beaucoup de contenu enregistré. Du coup nous avons pris la décision de tout enregistrer en différé. Vous pourrez quand même réagir à l'émission sur le chat de Radio G et nous vous ferons un plaisir de vous répondre en temps réel. Émission enregistrée donc, nous ne sommes que deux dans les studios aujourd'hui. Fadi n'est toujours pas là, je suis désolé, mais Alex est là et même si on est enregistré, tu auras le droit, le privilège et même le devoir de réaliser tes infos à oublier. Comment ça va, Alex?
Ça va bien, en tout cas j'ai juste envie de dire que il reste les deux meilleurs, quoi.
Voilà, les deux meilleurs. L'émission Génération a commencé avec 10 personnes en studio. On n'est plus que deux. Dans deux semaines, l'émission est terminée. On va, comme je l'ai dit, beaucoup parler aujourd'hui. On aura l'occasion d'avoir trois interviews qui ont été réalisées. On va parler job d'été avec le J Connecté, où Fadi a reçu un conseiller, Arnaud Brahi, qu'on connaît bien sur la station. Fadi a ensuite reçu Unicité pour parler d'une nouvelle mission de volontariat qui sera la mission éco-volontaire. Pour ça, Fadi a reçu Émilie, coordinatrice d'Unicité, et puis trois volontaires, Pierre, Quentin et Serena. Et puis enfin, en fin d'émission, la dernière interview qu'on aura l'occasion d'écouter, c'est une interview que j'ai réalisée avec Margot et on va parler de son entreprise Trip Counter. Mais avant ça, on va commencer bien évidemment par la classique, les infos à retenir que je vous présente de suite.
Les infos à retenir de Max.
Et on va commencer par une info sportive. La finale de la Ligue des Champions sera organisée le 28 mai au Stade de France. Elle était prévue à Saint-Pétersbourg en Russie, mais apparemment, il y a des nazis en Ukraine. Du coup, Poutine a envahi le pays et voit son beau pays, la Russie, se faire boycotter dans tous les sens. Il aura fallu une guerre en Europe pour que la France organise une finale de Ligue des Champions. Ça en dit long sur la place de notre beau pays au sein de l'organisation criminelle qu'est l'UEFA. Petite info culture maintenant avec la 47e cérémonie des Césars qui a eu lieu la semaine dernière avec de belles surprises. Antoine Decaune a utilisé son humour déplorable pour une soirée qu'il était tout autant. Le grand vainqueur de la soirée justement est le film Illusion perdue réalisé par Xavier Ganoli qui a remporté 7 Césars dont celui du meilleur film. Une cérémonie où il n'y aura pas eu d'incident comme les deux années précédentes mais où on s'est fait un petit peu chier quand même. Cette soirée a été marquée par un miracle. Alors non, Gaspard Ulliel n'est pas revenu à la vie, mais Valérie Le Mercier, elle, a gagné le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Aline, adaptation de Céline Dion. Je pense aussi pouvoir obtenir un César l'année prochaine pour mon adaptation de Voldemort dans le film Volodomir. Pas sûr que le tournage du film puisse aller à son terme. Petit point politique désormais avec la carrière de Christiane Taubira qui se résume à une série de films. En 1983 sort le Retour du Jedi, ce qui représente le retour de Christiane en politique il y a quelques mois, en voulant se présenter à la présidence. Et puis en 2001, Ridley Scott sortait La Chute du Faucon Noir, ce qui représente la fin de sa carrière politique cette semaine, puisqu'elle n'a pas réussi à avoir les 500 parrainages nécessaires. En 2009 sortait La Dernière Maison sur la Gauche, un super film qui représente la fin du Parti Socialiste. Et enfin, en 1987, Jean-Luc Godard sortait Soigne ta droite. Je ne vais pas vous faire un dessin sur ce que cela représente. C'est la fin de ces infos à retenir. D'habitude, il y en a un peu plus, mais comme Fadi, j'ai décidé de partir en vacances. Bonne émission, appreciate.
Génération avec Max.
Et voilà pour ces petites infos à retenir. Laquelle tu as retenu en particulier, mon Alex?
Il y en a tellement. J'ai bien aimé passage Taubira avec l'analogie avec le cinéma.
Taubira, c'est déjà fini. Par contre, Génération ne fait que commencer. Wow. On va tout de suite s'écouter la première interview, celle de Arnaud Brahi, qui a été réalisée par Fadi la semaine dernière, où nous allons parler job d'été avec le J Connecté.
J
Génération avec Max.
Je suis aujourd'hui avec le J Connecté Angers Jeunesse, 12 place Saint-Bac à Angers. Aujourd'hui, c'est Arnaud qui vient représenter la structure. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, ça va, merci. Ouais.
Un petit moment qu'on s'est pas vu, s'est pas vu tous les deux.
C'est vrai, oui, mais je suis de retour là. Le printemps arrive, donc
Oui.
Ça me fait sortir de ma structure.
Aujourd'hui, on va aborder le thème des jobs d'été. C'est la période qui démarre, là, l'approche de la fin d'année. Donc le J Connecté avec d'autres structures propose des rencontres et des ateliers au niveau des jobs d'été. De manière générale, avant de parler de l'événement qui sera le 26 mars, de manière générale au J Connecté, vous avez du public qui vient vous demander des renseignements à partir de quelle période à peu près ?
Bah nous, ça commence dès le début de l'année civile, hein, à partir de janvier-février, ça commence à arriver. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on organise différents temps et qu'on commence nous aussi à informer dès le mois de février avec un certain nombre d'ateliers, notamment pendant les vacances de février, mais tout au long de l'année. Et on essaye effectivement de faire des temps forts et des temps de rencontre entre février et mai, puisque c'est la grosse période de recherche et de demande des jeunes à ce niveau-là.
Pour recontextualiser les jobs d'été, parce qu'il y a des personnes, enfin, on ne sait pas forcément à partir de quel âge on peut travailler. Un job d'été, un emploi saisonnier, c'est pour les plus jeunes, c'est à partir de quel âge ?
Alors, officiellement, ça c'est la loi qui le dit, on peut travailler à partir de 14 ans.
D'accord.
Donc à 14 et 15 ans, on peut travailler la moitié de la période officielle des vacances scolaires.
Donc une semaine ou un mois.
Voilà, c'est ça. Ouais. Soit une semaine, soit un mois. Ça, c'est ce que dit la loi. En réalité, trouver des employeurs qui prennent avant 16 ans, c'est extrêmement compliqué. Et même entre 16 et 18 ans, là, la loi est un peu plus large, même si le travail de nuit n'est pas autorisé. Mais avant 18 ans, il faut savoir aussi qu'il y a quelques rares secteurs qui recrutent des jeunes. Mais c'est vraiment qu'à partir de 18 ans que là, tout le panel s'ouvre aux opportunités.
Parce que pour les mineurs, il y a des contraintes différentes par rapport à la sécurité du travail, par rapport
notamment,
à la rémunération.
Effectivement, tous les emplois ne peuvent pas être occupés par des mineurs. Ça peut être le cas, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration. Parce que si un jeune mineur ne peut pas travailler après 22 heures et que...
Oui.
Si voilà, on a un service de soirée, et ben, voilà, c'est difficilement compatible. Et puis que ça incombe à l'employeur un peu plus de responsabilité vis-à-vis de son salarié. Et qu'en général, même s'il peut payer moins cher un mineur, ça la loi l'autorise aussi, mais lui, il préfère très clairement avoir des majeurs dans son staff la plupart du temps. En tout cas, s'il a le choix, il va privilégier plutôt les majeurs.
D'accord. Et est-ce que ça rentre en compte dans... toutes les cotisations qu'on fait pour la suite de notre vie? Alors, la retraite, c'est ce dont on parle le plus. Est-ce que travailler avant 18 ans, on cotise déjà?
Bien sûr, à partir du moment où on travaille, on a un contrat de travail et donc on a des droits sociaux et donc on cotise, on a un salaire brut, on a un salaire net. Donc on cotise comme n'importe quel salarié majeur ou pas en fait. Ça faut le savoir.
Tout au long de l'année, donc tu t'en parlais, vous accompagnez les jeunes donc, sur plusieurs thématiques. Là aujourd'hui on va parler des jobs d'été. Donc il y a un événement qui s'organise samedi 26 mars.
C'est ça.
Au Grenier Saint-Jean. Donc c'est à côté de la place La Rochefoucauld, à côté de là où il y a la foire Saint-Martin, si vous voulez.
Tout à fait.
Si vous voulez situer.
C'est un bon point de repère.
sur cet événement, donc c'est de 10h à 17h.
De 9h30 à 17h30.
9h30, 17h30. Comment ça va se dérouler physiquement? Est-ce que ce sera plein de stands comme un grand forum des métiers? Est-ce qu'il y aura du job dating?
Alors un petit peu les deux, j'ai envie de dire. L'objectif premier, effectivement, c'est de se faire rencontrer et des employeurs qui ont des offres à proposer et des jeunes qui recherchent un job et qui sont prêts à venir avec un CV pour rencontrer les employeurs. Ça, c'est le premier objectif. C'est pour ça qu'on invite plus d'une cinquantaine d'entreprises du territoire qui ont des offres donc assez nombreuses à proposer. Et puis après, l'objectif, c'est aussi d'avoir un rôle méthodologique, pédagogique à côté de ça. Donc, d'avoir des créneaux, par exemple, pour faire corriger son CV et sa lettre de motivation, pouvoir imprimer sur place des CV si on n'a pas eu le temps de le faire ou si, justement, entre-temps, on a pu corriger des choses pour l'améliorer. Il y a aussi un point sur la mobilité. Donc, c'est pour ça qu'on invite Irigo, SNCF, etc. sur la santé aussi, hein, parce que faut savoir que l'été c'est souvent les périodes un peu de première prise de risque et que quand on est jeune on pense pas à sa santé, hein, que ce soit dans les conditions de travail ou dans le rythme qu'on va s'imposer pendant l'été. Donc voilà. On essaye de proposer un panel vraiment très très large autour de l'emploi, du job d'été, du premier job également, de façon à ce que le jeune effectivement il reparte avec un maximum d'infos, un maximum de contacts, un maximum d'opportunités pour trouver son job d'été.
Cette édition, est-ce qu'elle est importante pour vous par rapport aux deux dernières années où il y a eu beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de monde? Est-ce que cette nouvelle édition, vous attendez plus de monde ou alors vous la préparez comme d'hab sur les mêmes...
Alors, on la prépare comme d'habitude parce qu'effectivement, les deux dernières éditions étaient annulées à cause de la situation sanitaire. Mmh. Alors, on retourne dans un lieu qui est un lieu un peu mythique des journées de job d'été, les Greniers Saint-Jean, puisqu'on l'avait fait deux années de suite au quai. Mmh. Donc, mais pour plein de questions logistiques et d'organisation, c'était plus pratique pour nous de revenir au Grenier Saint-Jean. En termes de public, c'est le vrai point d'interrogation, puisque à la fois on sait que c'est un événement qui attire du monde, donc on aura du monde, mais en même temps on a une situation de l'emploi qui est très particulière, où il y a aujourd'hui presque un déséquilibre entre l'offre et la demande, alors qu'avant c'était l'inverse, c'était l'employeur qui était plutôt en rapport de force et le demandeur du coup qui essayait de grappiller ce qu'il pouvait. Là aujourd'hui il y a plus d'opportunités pour les jeunes, donc on sait que par leur réseau, par d'autres opportunités, ils ont l'occasion d'avoir des offres, peut-être de décrocher des emplois. Donc j'ai envie de dire, le contexte est particulier, on prépare ça comme d'habitude, mais on n'essaye pas de forcément d'être en comparatif avec l'avant-Covid, parce qu'on sait très bien que la situation sanitaire a aussi transformé pas mal de choses. Donc c'est plutôt un redémarrage de cette grande journée, ça nous permettra justement d'avoir des points de repère pour les années suivantes, et puis de voir ce qui a bien fonctionné, ce comment bien fonctionné, et puis même quitte à revoir la communication si on se rend compte qu'il y a eu des petits ratés à un moment donné, quoi.
Donc un nouveau redémarrage, une nouvelle édition. Si jamais on veut assister, parce que tu en parlais, ça va être l'occasion de rencontrer des employeurs et certainement de postuler. Si jamais on ne maîtrise pas encore l'édition, la création de CV, de lettres de motivation, vous avez des on peut directement se présenter au J pour se faire accompagner ou alors il faut prendre rendez-vous auprès de vous.
Alors le mieux c'est de prendre rendez-vous parce qu'on peut caler un temps, hein, ça c'est l'idéal. Mais en plus, on va organiser le jeudi précédent un temps justement spécifique avec donc la structure NQT, nos quartiers ont du talent, sur le CV, la lettre de motivation, de façon effectivement à ce que ceux qui ont envie d'être préparés en amont puissent le faire. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse éventuellement vous donner un créneau sur cet atelier-là, qui peut être un vrai outil de préparation. Si vous n'êtes pas dispo sur ce créneau-là, eh bien, faut pas hésiter à passer nous voir ou à prendre rendez-vous avec nous de façon individuelle. Et puis le jour même, il y aura aussi possibilité de revoir des petites choses. Après, il faut quand même si vous arrivez avec un CV et une lettre de motivation qui ne sont pas parfaites, il vaut mieux arriver avec quelque chose, quitte à ce que les gens puissent un peu corriger, améliorer les choses, plutôt que de venir sans rien, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, il vaut mieux faire le déplacement et faire l'effort. Même les... Parce qu'on reste jeune, et surtout pour ceux qui ont moins de 18 ans. Donc déjà, cette démarche va montrer à l'employeur qu'on est motivé. Déjà, on est présent, on a tenté le coup.
Tout à fait.
Même si ça n'aboutit pas tout de suite, mais au moins, même pour nous, à titre personnel, ça nous permet de franchir le cap de « je stresse », de parler à un employeur et une personne qu'on peut considérer comme supérieur plus tard.
Tout à fait.
Au niveau de l'organisation de l'événement, donc une cinquantaine de partenaires, est-ce que il y a des partenaires qui sont déjà avec le J J Connecté de base, ou alors c'est 50 entreprises que vous avez juste contactées depuis le début de saison pour organiser l'événement?
Alors il y a des gens avec qui on travaille depuis de nombreuses années maintenant, hein, qui reviennent à chaque saison, des fois qui viennent même sur les temps qu'on fait aussi à la rentrée sur les jobs étudiants. Et puis à chaque édition il peut y en avoir des nouveaux aussi, hein. Ça dépend vraiment des besoins. Donc il y en a qui ont participé, qui pour une raison X ou Y ne participent plus pendant une édition, et on peut avoir d'autres entreprises qui sont intéressées. Donc c'est vraiment il y a toujours un certain nombre d'entreprises fidèles, j'ai envie de dire, mais on laisse la porte ouverte bien sûr aussi aux nouveautés. Pour nous l'essentiel en fait, c'est d'une part d'avoir décidé d'avoir une diversité d'offres d'emploi, hein, qui ne soit pas forcément que dans un ou deux secteurs. Ça c'est la première chose, que les entreprises recrutent plutôt en nombre, hein, pour que effectivement ça laisse des opportunités un maximum de jeunes. Et puis après, j'ai envie de dire, voilà, nous on laisse la porte ouverte aux possibilités. Alors, arrivé à un moment donné, quand la salle est pleine et que tous les stands sont remplis, on ne peut pas en rajouter, malheureusement. Mais voilà, c'est vrai que de ce côté-là, on n'a pas de, on se fixe pas en disant on va travailler avec tel partenaire ou telle entreprise. C'est vraiment, ça reste ouvert quand même, quoi.
Et ça couvre tout le territoire de l'agglomération Angevine. Les entreprises les plus éloignées, par exemple, elles sont.
Il peut y avoir des entreprises des fois qui sortent même de l'agglo, hein, qui sont un petit peu plus loin. Mais il y a beaucoup de choses aussi, bien sûr, sur Angers l'agglo. Hein, ça, c'est aussi la priorité, c'est que les jeunes n'aient pas trop de déplacements à faire, voilà, que ce soit pas. Alors, il peut y avoir des emplois qui nécessitent un véhicule, hein, ça, oui. Ça c'est clair. Mais il y en a aussi d'autres, pas forcément. Donc voilà, ça c'est aussi ce qu'on veut essayer de mettre en place, quoi.
Donc ce sont pour les emplois saisonniers. Oui. Emplois saisonniers, c'est juillet-août ou est-ce qu'on peut étendre juin-septembre?
Oui, ça dépend des postes en fait. Hein, alors ça c'est très très variable, hein, c'est-à-dire que.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sur la période d'été.
C'est là, surtout. Voilà, là, ça va être surtout sur la période d'été. Ça peut être effectivement un petit peu avant, un petit peu après. Après, certaines personnes vont recruter aussi. En fait, ils viennent là pour l'été, mais ils recrutent aussi tout au long de l'année. Et pour d'autres, leur saison, c'est 6 mois, en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très large. Là, quand même, la priorité, c'est effectivement les 2 mois d'été. Et puis après, si les postes, s'il y en a qui proposent plus large, bah après, c'est une histoire d'entretien, de négociation entre le jeune et l'employeur, voilà.
Y a cet événement qui s'inscrit dans de ce que je me suis renseigné, ce n'est pas français. Selon les infos que j'ai trouvées sur internet, il y a un événement national, il me semble, ou régional avec le CRIJ.
Alors il y a plusieurs événements en fait.
Par rapport au job d'été.
Oui, en fait il y a plusieurs événements et job d'été qui sont organisés et dans la région et dans le département. Donc on a une petite carte effectivement qui résume l'ensemble des opérations de job d'été qui ont lieu notamment dans le département. En sachant que celle d'Angers, c'est quand même la plus grosse journée du département. Alors Nantes en fait aussi. Il y a aussi beaucoup de forums sur la côte qui sont faits dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Donc effectivement, on peut trouver vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hein, si on recherche un job d'été, même en dehors d'Angers, on peut trouver des choses ailleurs sans aucun problème.
Hein. Et puis même si les Angevins, par exemple, pendant 2 mois, un jeune part en vacances dans une autre ville, il peut passer au GIS, se renseigner, et au pire, dans la région, vous pouvez les rediriger.
Exactement, on peut les rediriger vers nos collègues de l'information jeunesse. On trouve aussi pas mal d'infos sur le site de Pôle emploi, par exemple. Hein, des fois même, il y a certaines annonces où c'est directement indiqué rendez-vous au forum, etc., d'accord, avec les dates. Donc effectivement, ça c'est tout à fait possible. Et puis là, même sur cette journée-là du 26 mars, on a aussi un stand job à l'étranger.
Ah oui.
Donc ça va même au-delà de la France. Il y a des structures qui proposent des offres même à l'étranger. Donc voilà, l'idée c'est d'ouvrir les vannes suivant le projet du jeune en fait. Hein. Voilà.
Donc si on résume, si pour cet été vous souhaitez donc avoir une expérience en plus ou découvrir le monde du travail ou commencer à travailler, découvrir le milieu, donc le 26 mars de 9h30 à 17h30 au Grenier Saint-Jean à côté de la place à Rochefoucauld, le J-Connecté organise donc une journée job d'été.
C'est ça,
une journée job d'été.
La journée job d'été, un forum job d'été, on l'appelle comme vous voulez.
Avec donc plusieurs intervenants, des employeurs et puis des personnes aussi qui pourront vous accompagner dans la création de CV, lettre de motivation et puis juste pour échanger aussi, je pense, si jamais ils ont des questions.
Bien sûr, on est là pour informer, on est là pour des fois dire bah effectivement peut-être que t'es un peu jeune ou voilà ou que votre enfant est un peu jeune parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui viennent mais réexpliquer, on a des guides qu'on distribue, enfin voilà, l'idée c'est vraiment de rentrer en contact, de s'informer et puis éventuellement pour ceux qui peuvent de décrocher un emploi, on espère chaque année de son, il y en a un certain nombre qui grâce à ce forum en trouve hein, et c'est l'objectif premier de toute façon. Donc voilà.
Donc, de toute manière, comme Arnaud te le disait tout à l'heure, prenez le temps de au moins venir, au moins vous présenter avec un CV, une lettre si possible. Sinon, au moins venir et puis on vous aide dans le truc. Mais faites au moins le déplacement. Comme ça, vous avez fait l'effort. C'est déjà une démarche en plus.
Bien sûr.
De votre côté. Arnaud, merci beaucoup.
De rien. Avec plaisir.
On te retrouve donc au J Connecté, 12 places, un bac à Angers. Et j'ai pas le numéro de téléphone, je l'ai pas noté.
02 41 05 48 00.
Tout est noté.
Voilà.
Merci beaucoup au 26 mars et nous on reprend la suite de l'émission.
Génération avec Max. Voilà, c'était l'interview d'Arnaud Brahi avec Fadi. On a pu parler job d'été tout simplement avec le J Connecté. On va tout de suite passer à la seule et unique pause musicale et puis on reviendra tout de suite en studio pour la suite de Génération. On va tout de suite s'écouter un nouveau titre, un titre réalisé par Tidiaz en featuring avec Adam et on va s'écouter leur titre Abîmé.
Je n'ai pas eu le temps de te dire que je m'en veux de t'avoir autant blessé. Mon cœur n'arrive plus à aimer, trop abîmé, j'ai préféré te laisser. Je n'ai pas eu le temps de te dire que je m'en veux de t'avoir autant blessé. Mon cœur n'arrive plus à aimer, trop abîmé, j'ai préféré te laisser. Je sais bien que tu m'en veux. Je sais bien que tu nous voyais loin tous les deux. Laisse tomber, je suis compliqué. Toi t'es piqué, la story love, je ne peux plus, je suis bloqué. Et si je t'ai couvert de roses, c'est que tu comptes beaucoup pour moi. Te dire tout ça avant, je n'osais pas. Oui, je gardais tout pour moi. Je n'ai pas eu le temps de te dire que je m'en veux de t'avoir autant blessé. Mon cœur n'arrive plus à aimer. Je préférais te laisser. Je n'ai pas eu le temps de te dire que je m'en veux de t'avoir autant blessé. Mon cœur n'arrive plus à aimer, trop abîmé. Je préférais te laisser. Je n'ai pas eu le temps de te dire que je m'en veux de t'avoir autant blessé. Mon cœur n'arrive plus à aimer, trop abîmé. Je préférais te laisser.
Je ne veux pas que tu pleures pour moi.
Pas pour
je
moi.
Ne mérite pas tes larmes. Je n'ai plus de cœur, pardonne-moi. Aimer, je n'y arrive pas. Il est temps de dire au revoir à notre amour, à notre histoire. Et peut-être que tôt ou tard, on se retrouvera par hasard.
J'ai pas eu le temps de te dire que je m'en veux de t'avoir autant blessé. Mon cœur n'arrive plus à aimer, trop abîmé. Je préférais te laisser.
Je n'ai pas eu le temps de te dire que je m'en veux de t'avoir autant blessé. Mon cœur n'arrive plus à aimer, trop abîmé. J'ai préféré te laisser. Je n'ai pas eu le temps de te dire que je m'en veux de t'avoir autant blessé. Mon cœur n'arrive plus à aimer, trop abîmé. J'ai préféré te laisser.
Génération avec Max.
De retour dans Génération pour la suite de l'émission. Nous allons tout de suite passer à une autre interview consacrée à Unicité, une fois de plus réalisée par notre ami à tous Fadi, où il a pu parler d'une nouvelle mission en volontariat, puisqu'il s'agit de la mission éco-volontaire. Et pour cela, Fadi a reçu Émilie, la coordinatrice d'Unicité, et les trois volontaires de cette mission, Pierre, Quentin et Serena. Génération avec Max.
Alors Max, je suis actuellement avec le groupe d'Unicité, une nouvelle mission qui nous rejoint aujourd'hui. On en parlait la dernière fois que Unicité est passée chez nous. C'était la mission Chèque Énergie. On était avec la coordinatrice Émilie qui revient aujourd'hui. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
Ça va, top. Donc tu reviens aujourd'hui avec, tu nous parlais de la seconde mission que tu as à ta charge en tant que coordinatrice, c'est la mission éco-volontaire. Et aujourd'hui, on est donc avec Pierre, Quentin et Serena. Déjà, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
On en parlait juste avant l'antenne. Il y a déjà un léger stress par rapport à la prise à la prise d'antenne parce que c'est la première fois pour vous trois.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Déjà bienvenue, topissime que ce soit votre première fois, que nouveau palier quoi qui est atteint, donc trop cool. Ça fait partie en plus dans votre parcours de volontaire en service civique d'une expérience en plus que vous pouvez bénéficier, donc c'est plutôt top. Pierre, Quentin donc et Serena qui est volontaire dans la mission Éco volontaire. Pour rappel, on en parlait la dernière fois avec, dans la mission Chèque Énergie, la mission Éco volontaire. Donc vous me corrigez si je me trompe. La mission Éco volontaire, c'est une nouvelle mission qui a démarré cette saison, donc en 2021, qui a pour objectif de faire de présenter aux jeunes et aux moins jeunes tous les dispositifs possibles pour protéger la nature et sa biodiversité. Et en gros, vous présentez au niveau du grand public et vous faites des animations par rapport à la protection de la nature. Est-ce que c'est plutôt correct dans l'explication, Pierre?
Ouais, c'est ça. Ouais. T'as dit plus grand objectif qu'on avait. Ouais.
Et du coup, dans votre quotidien, Quentin, comment une journée ça se passe pour vous? Alors déjà, c'est vrai que je pose souvent cette question et souvent les missions viennent de commencer. Vous avez commencé votre mission quand?
On a commencé mi-octobre.
Mi-octobre, donc le temps de formation est effectué et vous avez déjà commencé des interventions.
Ouais.
C'est ça, ouais. Donc au quotidien, comment ça se présente par exemple une journée d'intervention basique, Quentin?
Alors selon les partenaires, parce qu'en fait chaque jour chaque jour par semaine on peut avoir un chantier régulier ou un partenaire où on a des missions régulières, mais sur un chantier en général on a rendez-vous entre 9h 9h30 et on arrive sur le site, on nous dit ce qu'on a à faire et ça peut être de la plantation d'arbres, de la restauration de mares, c'est très divers et puis on commence à travailler comme une journée normale qui pourrait s'apparenter au travail en fait.
Ok. Quand tu dis chantier, ça veut dire que vous intervenez sur des terrains dans l'agglomération angevine, je vais me tourner vers Serena, qui a un peu peur de parler, mais c'est normal, t'inquiète pas. De toute façon, on parle de ce que tu fais au quotidien, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, sauf si elle triche et que on la croise à des quatre fonds. Quand on parle de chantier, donc vous intervenez sur des terrains pour justement, comme Quentin le disait, faire des plantations, etc.
Oui, c'est aux alentours d'Angers, donc
on peut citer les secteurs ou les villes. Hein.
Y a pas de... Je sais pas trop d'Angers, donc je connais pas les villes.
Il y a eu Domré,
Douai la Fontaine aussi.
Douai la Fontaine, ok.
Ouais, Muret-Rigné, un peu partout autour d'Angers.
Aux alentours.
Ouais, à 30 km autour d'Angers à peu près.
Et donc dans ces secteurs-là, il y a des zones qui doivent être où il faut faire de nouvelles implantations. Et c'est là où vous intervenez?
En fait, c'est les associations qui sont situées des fois donc aux alentours effectivement d'Angers, un petit peu plus loin. Et donc on va aller directement chez elles. Ou alors on va avoir des associations qui sont directement sur Angers mais qui vont agir plus loin. Et donc nous on va les accompagner et les aider. Par exemple pour les plantations d'arbres, ça va être leur objectif va être de le faire avec des agriculteurs. Les agriculteurs on les retrouve pas vraiment en ville.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'on va un petit peu s'éloigner du centre-ville d'Angers.
Et donc vous êtes en partenariat du coup avec plusieurs associations. On peut en citer une ou deux associations avec qui vous êtes ou pas?
Ouais, bien sûr.
Ouais, vous pouvez en citer une ou deux, ouais. Ouais, le stress.
Par exemple, on cite depuis tout à l'heure la plantation d'arbres. On a Mission Bocage.
Mission Bocage.
Mission Bocage, okay. Où eux, ouais, vraiment, ils vont. C'est principalement ça, ouais, ils vont planter des arbres.
Et la Fédération de chasse aussi.
Ouais.
Avec qui on plante des arbres. On a un partenaire qui s'appelle la ferme du bol d'herbe, pardon.
Ouais.
C'est une espèce de ferme un peu écologique, en mode un peu éco-village, où il y a différents types de corps de métier. Et par exemple, sur ce chantier-là, c'est un chantier régulier, où tous les trois équipes tournent tous les deux mois et demi à peu près. Et on a fait plein de choses. On a fait du débroussaillage de ronces pour dégager un chemin creux. On a construit une espèce de petit radeau pour l'étang pour accueillir des oies. Il y a des missions où on fait pas mal de choses.
Donc parmi les nombreuses missions qu'il y a chez Unicité, la vôtre fait partie des plus physiques, si je comprends bien.
On peut dire ça. Ouais.
Une inscription à la salle quasiment gratuite. On est indemnisé pour.
On est souvent fatigué le soir de chantier.
On dort bien.
Et à côté de ça, alors je ne sais pas si vous, ça fait partie aussi de vos missions. Il y a donc l'intervention auprès des grands publics. Est-ce que ça fait partie des missions que vous faites aussi?
Ouais.
Ouais. Donc le grand public, est-ce que c'est que du public jeune, jeunesse scolaire, ou s'il y a aussi des adultes parmi les gens devant qui vous faites des interventions?
Alors, comme on dit, c'est le grand public. Donc, nous, on va voir souvent, c'est des écoles. On a pour objectif les écoles. Donc, des jeunes plutôt âgés entre, enfin, un peu moins de la dizaine, mais ça arrive aussi d'aller voir d'autres promotions d'Unicité. Donc, on va faire la promotion un peu de notre. Pas la promotion, mais on va présenter la thématique de la biodiversité. Donc, des jeunes de notre âge. Mmh. Et par exemple, nous, on a fait une sensibilisation dans un centre Jacques Tati où des adultes étaient présents aussi avec leurs enfants. Donc on a aussi comme grand public, les adultes.
Et dans ces interventions-là, Serena, vous remettez en contexte ce que vous faites au quotidien sur le terrain, ou alors vous avez des outils à part que vous utilisez du coup spécifiquement sur les interventions?
On a mis en place des outils d'animation, des outils pour justement rendre la chose plus ludique et amener le sujet un peu plus facilement, par exemple avec les enfants. Et on a amené le fresqueur de la biodiversité. C'est une fresque qui explique tout la biodiversité et le climat aussi. Du coup, on a pu faire ça par exemple avec les volontaires d'Unicité.
Et le but, c'est concrètement, par exemple auprès des enfants, le but final à la fin des séances, c'est quoi? Qu'ils puissent se dire, ok, faut que je fasse attention à la nature, à comment j'interagis avec elle et prendre des bonnes habitudes très tôt.
Oui, c'est ça, c'est de les sensibiliser pour qu'ils aient ça dans leur tête et qu'ils puissent agir mieux.
Puis même en soi, qu'ils ressortent aussi intéressés par la chose et que ce soit pas juste une espèce de contrainte de devoir faire attention à la nature et tout. Faut qu'ils ressortent pas émerveillés, mais qu'ils soient intéressés par la chose et qu'ils se disent que ça peut être un plaisir de s'occuper un peu de la nature.
Et en plus, je suppose que ça fonctionne vu que c'est votre cible. Moi, je me suis toujours dit que pour mieux atteindre les adultes, il fallait forcément passer par les enfants, parce que ce sont les enfants qui sont là au quotidien et qui retransmettent: papa, maman, j'ai vu ça, attention à ce que tu fais, etc. Est-ce que c'est un retour que vous avez eu peut-être des parents? Alors, je vais peut-être me tourner vers toi, Émilie, je sais pas si tu as eu des retours par rapport à ça vis-à-vis des familles.
Non, on n'a pas trop de retours des familles par rapport aux interventions qu'ils ont pu mener. C'est vrai que là, ils sont quand même au tout début de leurs animations en structure, en école, parce que la période de janvier-février avec le Covid a été un peu compliquée. Donc, ils commencent seulement là, depuis mi-février, à être dans les écoles et dans les centres sociaux et les maisons de quartier pour pouvoir faire leurs animations. Donc oui, on espère que ça ait une incidence et que les parents puissent nous dire par la suite, voilà, mon enfant m'a parlé de ça, il a vécu ça avec vos volontaires, c'était chouette. Après, on n'a pas vraiment de visibilité là-dessus, en fait, et d'indicateur pour la suite.
Une question que je pose à tous les volontaires d'Unicité qui passent chez nous, c'est parce qu'il y a divers chemins pour tomber sur un volontariat tout court, pour tomber ensuite sur Unicité, pour tomber ensuite sur la mission éco-volontaire. Vous, spécifiquement, quel a été ce parcours? Comment vous êtes arrivé à choisir la mission éco-volontaire à Unicité? En commençant par Pierre.
Moi déjà, je suis déjà très intéressé par tout ce qui est biologie et environnement, parce que ce sont les études que j'ai choisies.
Ouais.
Et entre ma licence et mon master, j'ai voulu faire un petit peu une passerelle. J'ai entendu par le biais de mes amis, eux, qui avaient fait des recherches Unicité. Donc d'abord même un service civique. Et puis moi, en faisant mes recherches, j'ai entendu parler d'Unicité. Et je me suis dit pourquoi pas me renseigner. Et puis c'est là que j'ai rencontré Émilie. Et Émilie m'a parlé de l'éco-volontaire. Qui se rapprochait au mieux de ce que je faisais dans mes études. Okay. Donc j'ai choisi ce service civique pour cette raison.
Donc via les réunions d'information dont tu nous parlais la dernière fois, Émilie, ensuite vous avez échangé en individuel.
C'est ça.
Ok. Quentin?
Alors moi, je sors d'un bac pro photo et je savais pas du tout quoi faire après mon bac pro, parce que ça m'avait un peu dégoûté du métier. Je retrouverai pas dans les détails, ça va être un peu long.
Ouais. Non, mais après, c'est important de le dire, parce que dans toutes les émissions, on en parle, on peut avoir des parcours différents qu'on peut démarrer de n'importe où et justement se réorienter sans se dire c'est grave, ma vie elle change, etc. Juste on se réoriente, ça arrive et on tente de nouvelles choses. Donc c'est quand même important, sans préciser les détails, mais important de dire j'ai pas aimé et j'ai tenté autre chose.
Ouais, c'est ça, exactement. Et puis Unicité, j'en ai entendu parler parce que c'était ma grande sœur qui avait fait un service civique, pas du tout dans la même branche. Mais de base, je voulais rester un peu dans le domaine de l'image, sauf que je l'avais pas trouvé. Et le plan B, c'était un peu l'environnement. Et comme c'est l'environnement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est quelque chose que j'aime. Je me suis dit, allez go.
Et du coup, la meilleure expérience depuis que t'as démarré. Bon,
ouais, franchement, ouais, je m'éclate. C'est sur, enfin, surtout sur les chantiers après animation, je verrai bien. Ouais. Parce que j'ai jamais fait ça, mais je pense que ça va très bien se passer. Mais ouais, franchement, je m'éclate bien. On est très souvent dehors.
J'avoue, ça c'est trop bien. Ça.
Donc ouais, ouais, c'est ça en fait. On est tout le temps dans la nature ou presque selon les chantiers. Mais ouais, on est très souvent dehors.
Non, mais ça doit être incroyable de se dire après des années assis derrière une table à étudier, assis chez toi, se dire. Je suis indemnisé pendant un an pour aller dehors.
j'avais besoin de ça aussi, quoi.
Ouais. Ouais, même pour toi, à titre personnel, ouais, ça te permet de.
J'avais besoin de sortir et de me reconnecter un peu aussi à la nature dans ce sens-là.
Serena.
Et moi aussi, j'ai toujours, un peu comme Pierre, j'ai toujours été sensibilisée à l'environnement, à la biologie et tout ça. J'ai fait des études qui sont en lien. Et aussi, entre ma licence et mon master, je voulais. Faire une année de césure, une petite pause et réfléchir à quel métier dans l'environnement je me sentais le mieux. Et du coup, j'ai connu une cité par des amis et la mission éco-volontaire sur le site. On a fait une réunion d'information.
Ouais.
Et voilà.
Des amis qui avaient fait un volontariat aussi ou qui en avaient entendu parler?
Qui avaient fait un volontariat, mais pas à Angers, à Rennes.
Ok. Donc vous venez de démarrer les animations, vous avez fait le temps de formation, vous avez fait du terrain. Est-ce que là on est. Vous avez combien de temps de formation, pardon? De volontariat?
8 mois.
8 mois. 8 mois depuis octobre, donc on est à la moitié là bientôt.
Ouais, ben on finit mi-juin.
Mi-juin, ok. Est-ce que vous sentez dans ce que vous recherchiez, attendiez, ou dans vos compétences ou connaissances, est-ce que vous sentez là une amélioration concrète de. Enfin, l'acquisition de nouvelles expériences, mais j'arrive pas à poser ma question alors qu'elle paraît claire. Est-ce que vous sentez les conséquences de votre investissement? Voilà.
Ouais, carrément. Moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses de par les partenaires comme de par les volontaires qui sont avec moi. Parce qu'il y en a plusieurs qui sortent de bio, de fac de bio et tout. Donc, ils nous apprennent aussi beaucoup de choses. Et on a appris beaucoup de choses sur le terme pratique comme théorique.
Pierre?
Ouais, c'est plusieurs aspects aussi. C'est effectivement, on a l'impression de gagner un petit peu d'expérience. Donc c'est pas mal à mettre sur le CV, cette expérience de terrain et puis de service civique. C'est quelque chose qui est très valorisé aujourd'hui. Et également, on se fait un réseau de contacts parce que mine de rien, on travaille avec des associations. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et comme on touche à plusieurs trucs, plusieurs choses différentes, on peut aussi se sentir plus impliqué dans autre chose. Et donc, ça nous permet de diversifier un peu ce qu'on fait.
Ouais,
on peut se projeter dans plusieurs choses.
Pour l'après.
Et ouais, c'est ça. Et comme disait Quentin aussi, à l'aspect social, c'est vrai que comme on travaille avec plusieurs profils différents, il y a des personnes qui sont très intéressées par d'autres sujets, des fois qui se rapprochent de la biologie, de l'environnement. Et du coup, on se sent encore plus impliqué quand ces personnes-là parlent de leur passion. Et du coup, ça nous donne encore plus envie de s'investir là-dedans.
Que du plus.
Ah ouais, ouais.
Et ouais, Serena, même question.
Et c'est hyper enrichissant comme expérience, parce que même au niveau professionnel et personnel aussi, parce qu'on rencontre de nouvelles personnes qui sont passées par différents chemins, et je trouve ça assez intéressant d'élargir notre cercle, que ce soit professionnel et personnel. Et aussi au niveau des compétences, ça élargit notre champ de compétences.
Sur cette mission, donc on rappelle encore une fois, Unicité, la particularité d'Unicité, ce sont les missions en groupe. Là, est-ce que vous êtes tous les trois trinômes, ensemble, ou est-ce que vous êtes en binôme séparé?
Ouais, non, on n'est pas du tout dans la même équipe. On se voit le mardi en regroupement, parce que c'est la journée de regroupement, mais sinon, on a chacun notre équipe.
Ils sont 13 volontaires en tout, et du coup, il y a deux équipes de 4 personnes et une équipe de 5.
Ok, d'accord. Et ensuite, chaque semaine, ils voient avec toi sur. Ils sont en autonomie pour savoir où aller, comment gérer leur truc, leur semaine, etc.
On est un peu accompagnés quand même.
On se fait notre programme en fonction des associations qu'on contacte, et effectivement, Émilie est derrière aussi pour gérer un peu tout ça.
Ok. Et petite question, Émilie, comme en tant qu'ordinatrice des deux missions, chaque énergie et éco-volontaire, la gestion des partenariats, tu mutualises les deux. Tu peux utiliser les partenaires de chaque énergie dans éco-volontaire et inversement?
Oui. Ouais. Oui. On essaye de faire des ponts, après pas toujours, parce que il y a quand même des différences dans les missions quand même. Mais parfois oui, ça peut arriver, notamment sur les maisons de quartier, les centres sociaux, les écoles. Ça, c'est des partenaires qu'on peut mutualiser parce que les deux missions peuvent intervenir auprès du public. Après, tout ce qui est chantier nature propre à la mission éco-volontaire, quelquefois les volontaires du chèque énergie vont en soutien aussi et puis ça leur permet de découvrir autre chose, mais c'est plus rare.
On a fait une ou deux plantations d'arbres ensemble avec les chèques énergie.
Bon, ça reste une expérience partagée parce que ça reste la force du volontariat, découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles compétences et expériences. On va faire ce que vous en parliez tout à l'heure, j'ai eu telle personne qui m'a parlé du volontariat, etc. Là, vous êtes volontaire. Est-ce que si un ami aujourd'hui venait vous voir sur la même base, j'aimerais me renseigner sur le volontariat au service civique, est-ce que tu peux me conseiller soit sur l'éco-volontaire ou la mission de service civique en général, est-ce que vous auriez un ou deux conseils ou un ou deux mots à dire à ces personnes? Visualiser une personne de votre entourage, hein, ce sera beaucoup plus facile. Hein. Ouais, Pierre.
Moi, par exemple, si je devais conseiller quelqu'un, ce serait surtout sur cet aspect-là, ce serait ces 8 mois en fait où on a le temps de réfléchir. Ouais. Et surtout qu'on est suivi aussi derrière, Émilie et puis toute une cité qui cherche à nous trouver une voie, un projet professionnel. Et du coup, c'est vraiment cet aspect-là que je mettrai en priorité.
Serena ?
Moi aussi, c'est un peu ça, c'est le fait qu'on soit bien suivi, bien encadré, et ça nous aide beaucoup pour notre projet professionnel plus tard.
Émilie qui est émue.
Et aussi, je dirais de foncer, parce que c'est important de prendre du temps à réfléchir, et de pas foncer dans une étude, dans des études sans être sûr, et même dans un boulot ou quoi. C'est un moment, un temps important pour soi.
Et Quentin.
Ouais. un peu les mêmes raisons. Hein. Le fait justement des 8 mois, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que je savais pas du tout quoi faire après mon bac pro. Et justement le fait de faire le service civique, ça m'a permis de toucher un peu à plusieurs choses et ça m'a permis de trouver ce que je veux faire plus tard, enfin ce que je veux faire l'année prochaine en tout cas quoi.
Ouais, Pierre.
Et si je pourrais même ajouter, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais aussi par rapport aux tous les profils différents avec lesquels on travaille, ça devient soit des collègues, soit des amis, enfin en fonction de certains. Et ce principe-là même de vivre en communauté, c'est quelque chose de super enrichissant dans la vie de tous les jours.
Ouais.
Je mettrais aussi cet aspect-là.
Surtout qu'on a tendance dans les travails après tout diviser, tout mettre en cage, genre tu fais ci, tu fais ça, là c'est bien d'avoir ce temps où chacun rencontre tout le monde, on mélange un peu en termes d'enrichissement, j'avoue c'est trop bien.
Ouais, puis on fait tout cela sur les chantiers, quand on est en équipe, on fait tous la même chose à peu près. Donc on communique sur ça, on se donne des conseils, machin, et c'est vraiment de la communication.
Émilie.
C'est vrai qu'à Unicité, on valorise vraiment la diversité des profils en termes d'âge, en termes de parcours, etc. Et c'est ce qui fait aussi la richesse après des 8 mois. Parce que, comme vous dites, hein, vous créez des liens, vous travaillez en équipe, etc. Et je me dis que mélanger différents profils, différents jeunes qui ont des parcours, ils apprennent les uns des autres et ça, c'est top.
Ouais, c'est ça. Il y a un enrichissement personnel en parallèle de l'enrichissement professionnel. De toute façon, je ne le dirai jamais assez. J'adore les volontaires en service civique. J'adore les conseils. Trop bien. Pierre, Quentin et Serena, volontaires en service civique à la mission éco-volontaire à Unicité. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été
merci à toi.
Un peu plus apaisé vis-à-vis du stress. Émilie, merci encore d'être passée chez nous. Il y a donc une réunion d'information. Il y en a plusieurs, mais on va vous citer la prochaine qui arrive. C'est le 17 mars 2022. Donc, tu me disais, Émilie, que c'est une réunion en visio et qu'il faut se renseigner sur le site Unicité Angers pour avoir accès. Pour avoir le lien.
Oui.
Et donc, à l'issue de la réunion d'information, comme Pierre l'expliquait tout à l'heure, il peut y avoir des entretiens individuels pour pouvoir intégrer la mission.
Il y a une session de recrutement avec un entretien collectif qui est ensuite un entretien individuel et on fait le point sur les envies des jeunes, leur parcours, les missions qui les intéresseraient. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site et vous inscrire à une séance d'information. Ça coûte rien, ça vous engage à rien, vous avez toutes les infos, on vous explique un peu comment ça se passe.
Oui, et puis en plus, il y en a plein, dont une par mois au J Connecté. Donc, si vous voulez vous renseigner, vous avez large le temps. Sinon, vous avez le numéro de téléphone 02 41 39 68 82 ou le mail angers@unicité.fr. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à Génération.
Merci
bon
à
courage
toi, merci.
Pour
merci.
La suite de votre mission. Et bonne suite, force à vous. Et puis, merci d'avoir été là.
Merci
à toi.
Au revoir.
Génération. Avec Max.
Voilà, je remercie une fois de plus Fadi pour cette longue interview qui a duré près de 20 minutes, mais au moins on a pu découvrir une autre facette d'émission que propose Unicité. C'est toujours un plaisir de les recevoir en studio et de parler d'eux. On s'écoute tout de suite, on enchaîne, on n'a pas le temps aujourd'hui comme je vous l'ai dit en début d'émission. On va s'écouter une interview que j'ai réalisée moi-même il y a quelques jours, quelques semaines même. Je me suis rendu à WeForge pour m'entretenir avec Margot Hay, où elle a pu nous parler de son entreprise Trip Counter.
Génération avec Max.
Nous sommes avec Margot Hay, fondatrice de Trip Counter. Bonjour Margot.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est Trip Counter ?
Donc Trip Counter, c'est une prestation de service sur mesure pour les étudiants, les jeunes diplômés et les personnes qui souhaitent partir à l'étranger.
Et donc ça existe depuis quand ?
Donc Trip Counter a commencé en juin 2021, donc ça fait tout juste 6 mois. D'anniversaire, on va dire.
Joyeux anniversaire.
Ben, merci.
On en a parlé juste un petit peu avant cette interview. J'imagine qu'il y a eu des blocages par rapport à la pandémie. Est-ce que ça vous a vraiment handicapé ?
Donc oui, ça nous a un petit peu handicapé. Nous, le projet est né quand même pendant la pandémie. Hein. Ça a débuté entre 2019 et 2020. La réflexion autour de la mobilité étudiante, mais pas seulement la mobilité en termes général. Hein. Parce que pour nous, mobilité égale employabilité. C'est comme ça un petit peu qu'est née l'idée. Donc l'idée est née pendant le Covid. Aujourd'hui, il y a encore le Covid. Et on se bat quand même avec ça.
Donc comment toi, tu as eu l'idée de créer justement Trip Counter ?
Donc Trip Counter, c'est né de deux choses. La première, c'était une expérience personnelle vécue où je suis partie seule à l'étranger quand j'avais à peine 20 ans parce que j'avais besoin d'en savoir un peu plus sur moi, sur la culture, aussi sur l'anglais, me sortir un peu de ma zone de confort. Et puis les mois avancent, les pays, les destinations, et arrivée en Thaïlande en pleine soirée, je me suis fait voler. Et mon premier réflexe a été d'appeler mes parents en pleurs, en leur disant que voilà, j'avais tout perdu, je savais pas quoi faire, ils étaient totalement désemparés face à la situation. Et à ce moment-là, précis de ma vie, j'avais personne vers qui me tourner pour me dire bah, « T'inquiète pas Margot, tu peux contacter l'ambassade, va déposer plainte, demande une traduction en anglais à minima, sinon ça ne vaut rien, etc. etc. » J'avais personne. Et je suis revenue en France aussi. Je me suis reformée, j'ai continué à travailler. Je travaillais aussi à cette époque dans un service de ressources humaines. Et je voyais que certains étudiants qu'on prenait en alternance avaient une période de 6 mois obligatoire à effectuer à l'étranger et que c'était difficile pour eux de partir parce que papa, maman n'avaient pas forcément les contacts ou parce que voilà, ils n'avaient pas cette sensibilité pour à l'anglais ou pour traduire leur CV. C'était un peu plus compliqué pour eux. Et je me suis dit, bah mince, ces difficultés, moi je les avais il y a 5-6 ans auparavant. Ça serait bien d'imaginer une solution pour combler ce besoin.
Et justement, tu parles de solutions. Aujourd'hui, quels sont les services que tu proposes avec Trip Counter à ces jeunes qui doivent faire soit un stage à l'étranger, soit un VE, ou juste qui veulent prendre une période de pause et de break dans leurs études?
Donc nous, aujourd'hui, on propose 3 services. Un service qui aide et accompagne l'étudiant à se professionnaliser, à partir à l'étranger pour trouver un travail, un job d'été ou bien même un stage. Grâce à un coaching sur mesure, on va les accompagner à faire leur CV, leur lettre de motivation, à avoir une posture, une gestuelle, un discours aussi face à un employeur, un futur employeur. On les prépare aussi à effectuer un entretien en anglais, parce que parfois on a des candidats ou des étudiants où c'est leur premier vrai entretien, donc c'est toujours, ça peut être impressionnant. Donc là, de les préparer, au moins ils se sentent plus à l'aise le jour J. On leur propose aussi des offres d'emploi susceptibles de les correspondre. Et puis, donc ça, c'est le premier service. Le deuxième service concerne leur logement, parce que c'est pas toujours évident de se loger à l'étranger et qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc là, on leur propose un service sur mesure. On les accompagne dans leur démarche en fonction de leur budget, de leur localisation, ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est notre deuxième service. Et enfin, on a un dernier service qui est de l'accompagnement sur mesure de A à Z avant le départ. Ça va être tout ce qui est administratif, visa, passeport, transport, sur place pour répondre à leurs questions relatives à la mobilité et enfin à leur retour en France pour valoriser leur expérience et en faire un véritable tremplin professionnel L'idée, c'est de dire, ouais, on est parti, oui, on a appris des choses, mais maintenant, j'en connais un peu plus sur moi, je sais dans quelle direction je veux aller, je sais quel cap prendre, et c'est comment on met en lumière ses compétences acquises, aussi bien sur les réseaux, type LinkedIn, que sur un CV, ou même faire une rétrospection sur soi-même des choses qu'on a apprises.
Et donc, tous ces services que tu viens de me dire, ils sont payants?
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler en détail de l'offre que vous avez justement?
Alors, nos services sont payants. Ils sont entre 150€ à 400€. C'est des tarifs, certes, qui sont payants, mais c'est du sur-mesure. Donc, on ne peut pas donner le même conseil à un étudiant plutôt qu'un autre. Parce que pour nous, on pense que chaque personne est différente, chaque besoin l'est aussi. Donc, chaque prestation va différer d'un pays à un autre ou d'un profil à un autre.
Et est-ce qu'aujourd'hui, grâce à TripCounter, on peut partir partout dans le monde? Ou alors il y a des zones géographiques que vous privilégiez pour vos études?
Oui, alors aujourd'hui, on privilégie certaines zones, notamment l'Europe, et puis des zones où il est plus facile de se déplacer en fonction des guerres, de la géopolitique en place, ou encore de la crise du Covid qui a fermé certaines frontières. Donc aujourd'hui, voilà, on se focalise sur certaines zones. Voilà.
Et donc on en a parlé, hein, ça a été créé il y a très peu de temps. J'imagine que tu as déjà eu des retours. Est-ce que c'est des retours majoritairement positifs, pardon?
Oui, donc aujourd'hui on a eu des retours. On a eu depuis 6 mois une quarantaine de clients. On a eu des retours plutôt positifs sur nos actions. Après, on a fait des ajustements aussi en fonction de nos services. On a beaucoup digitalisé le processus. Aujourd'hui, on s'intéresse aussi à une autre clientèle. Donc voilà, on est toujours en recherche d'amélioration puisque notre idée, c'est de toucher un jour les étoiles dans notre prestation de service. Voilà.
Et enfin, pour terminer, imaginons que je suis étudiant, mais que l'année prochaine, j'ai envie de faire une année sabbatique et que je veuille, par exemple, partir en Belgique, à Bruxelles, pour faire un VIE. On rappelle que le VIE, c'est un volontariat international en entreprise, si je ne me trompe pas. Et si je viens te voir avec TripCounter, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour m'accompagner dans mon projet vers l'étranger, tout simplement?
Alors, plusieurs choses. On peut faire toute la partie planification administrative sur quel budget est octroyé, la vie, la BAT, ton budget logement, toutes les choses à prévoir en amont, ce qui est aussi bien, donc là en Belgique, il n'y en aura pas forcément, mais ça peut être le visa, ça peut être les démarches pour ton passeport, pour l'assurance. On a un partenariat avec des assureurs, donc et même des comparateurs de vol ou des choses comme ça, pour te faciliter la vie en amont. Donc là, ça va être une première partie sur la préparation, la planification. On va t'aider aussi si dans ta recherche de VIE, donc d'employeur, donc ça va être sur ta posture, ta candidature, vraiment mettre en lumière ton CV avec les opérateurs booléens, avec les mots-clés de sélection, etc. à avoir dans ton CV, sinon peut-être que tu ne seras pas recruté si tu n'as pas ce mot-clé dans ton CV. On va te proposer des offres d'emploi, on va t'accompagner dans ta recherche de logement. Et puis sur place, on peut être à ton écoute, quoi qu'il arrive, jusqu'à ton retour en France pour valoriser cette mobilité.
Et vous pouvez aussi proposer, chercher par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, un emploi, un stage, ou là dans mon exemple, un VIE.
Oui, on donne et on met en place des partenariats avec des entreprises petit à petit qui recherchent des profils particuliers, des candidats dans certains domaines. On est susceptible de donner des offres qui se correspondent, des offres ouvertes hein, qui sont accessibles à tous, mais aussi des offres cachées d'employeurs qui recherchent en off des profils particuliers.
Ok, et eh ben je te remercie. Est-ce que t'as un dernier mot à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué?
Non, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est de dire que la mobilité est hyper importante. Mais même si aujourd'hui, dans un contexte sanitaire difficile, c'est vrai qu'il y a on peut rencontrer des difficultés à voyager. Mais la mobilité est un véritable tremplin professionnel. Aujourd'hui, mobilité, c'est synonyme d'employabilité et véritablement un CV où il y a cette ligne anglais, voyage, etc. ça c'est un CV qui est plus regardé. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et donc moi, si j'avais un dernier message, c'est de dire si demain vous avez un projet de mobilité, si vous avez envie mais que vous n'osez pas, ou si vous avez juste besoin de conseils, n'hésitez pas à revenir vers nous, nous donner votre CV ou même nous rejoindre sur les réseaux sociaux et échanger à ce sujet.
Bon, ben merci beaucoup.
Merci.
C'était Margot pour Trip Counter.
Génération avec Max.
Voilà, l'émission touche à sa fin, mais avant ça, vous êtes habitués. On a une très belle entrée avec les infos à retenir, un plat de résistance très conséquent avec toutes ces interviews. Et maintenant, le dessert est passé, il reste l'apéro, l'apéritif. Vous, vous le savez évidemment, ce sont les infos à oublier. C'est signé Alex et on va lancer le petit jingle et puis ce sera à toi.
Les infos à oublier, signé Alex.
Et oui, Max a la une de ses infos à oublier, un faux radar de faux oignons et un faux candidat à la présidentielle. Tout de suite, c'est les véritables infos à oublier de la semaine. On commence la chronique en allant aux États-Unis et plus précisément à San Diego où la police a fait une découverte innovante. Oui, innovante, car des trafiquants mexicains ont redoublé d'efforts pour trouver un moyen de faire passer 600 kilos de méthamphétamine. Ils ont eu la brillante idée de faire passer la drogue en confection des faux oignons blancs pour mettre le produit illicite à l'intérieur. Cette prise d'une valeur de 3 millions de dollars rentre au panthéon des plus grandes idées pour camoufler la drogue après la découverte récente de 2 kilos de marijuana dans des paquets de céréales au Royaume-Uni. On va revenir en France et l'actualité est chaude, c'est évidemment les présidentielles. Vous avez peut-être entendu parler du chien Clovis qui a participé au vote des primaires Les Républicains. Eh bien, un autre chien s'implique dans la course à l'Elysée dans les Deux-Sèvres à Parthenay. Ce canidé se prénomme Jean Poil, il se présente comme antifasciste. Et son équipe de campagne colle ses affiches sur celles de Marine Le Pen ou encore de Jean-Luc Mélenchon. C'est sur les réseaux sociaux que le candidat poilu fait parler de lui, et notamment sur Instagram où il a déjà récolté 231 abonnés. Évidemment, cette candidature fictive fait sourire à quelques semaines de l'élection présidentielle dans une campagne pas toujours amusante. Vous avez l'habitude dans cette chronique des infos à oublier d'avoir affaire à des fous du volant. Cette fois, le protagoniste du jour fait parler de lui en dehors de la route. En Belgique, un riverain de la ville de Stekene voyait chaque jour passer devant chez lui des dizaines de chauffards en excès de vitesse. Cet habitant à la frontière néerlandaise a alors pris les choses en main. Il s'est motivé pour créer un faux radar plus vrai que nature pour inciter les automobilistes à ralentir sur la route qui borde son jardin. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tout est légal étant donné que cette construction se situe dans son jardin et non sur la voie publique. Les forces de l'ordre reconnaissent elles-mêmes que c'est une bonne initiative si elle peut permettre de ralentir la circulation. Comme quoi, les citoyens belges sont peut-être plus efficaces que la police elle-même. Une dernière info à oublier, ou à ne pas oublier, c'est comme vous voulez. La semaine prochaine, le grand animateur de Génération, Fadi Hamada, fera son retour à l'antenne de l'émission Jeunesse de Radio G. Et ça tombe bien, puisqu'il est payé pour ça.
Génération, avec Max.
Merci Alex pour ces infos à oublier. Alors c'est intéressant, hein, le chien Clovis. On avait l'habitude d'un autre Clovis, mais là, ouais. Bizarrement, lui a eu le droit de vote.
Oui, effectivement, ouais, ils ont un peu trafiqué tout ça.
En tout cas, on va mettre fin à l'émission de Génération. Tu en as parlé pendant ta chronique d'infos à oublier. La prochaine fois, tu as dit la semaine prochaine, mais c'est une émission, oui, n'est pas toutes les semaines. Ouais, c'est une petite erreur, t'as oublié, moi aussi j'ai oublié. Fadi reprendra la main sur son émission Génération. Il est payé pour ça, comme tu l'as dit. Et donc, ce sera dans deux semaines. On sera toujours là. Mais c'est vrai que ça fait quelques semaines déjà que je présente l'émission. C'est pas que j'en ai marre, mais quand même.
Mais voilà.
J'aimerais prendre des vacances également. Voilà, je commence à avoir des problèmes de dos, d'arthrose. Bah, ça n'a rien à faire dans l'émission, mais bref, il fallait que je le dise. Il fallait que je me plaigne.
C'est important.
En tout cas, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Vous pouvez continuer à écouter Radio G sur le 101.5 FM ou sur notre site internet radio-g.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans deux semaines.
Your lies is a reflection of you. I'm saying everybody else is too. because everybody else is too. Is too. Cause little Harvey's a reflection of you. I'm saying everything you say rings true. Even Alex a reflection of you. And I can see it in the way you move. Don't mind your lies, it's a reflection of you. I'm saying everybody else is too. Cause everybody else is too.
Radio G. www.radio-g.fr.